J'ai la conviction que dans l'époque où nous sommes, nous avons besoin de ce que j'appelle une politique de civilisation.
Nous nous occupons ici à l'UMP du quotidien de 63 millions de Français. Le Parti Socialiste ne s'occupe que d'un seul Français, qui est Nicolas Sarkozy.
On attendait d'un chef de l'État dignité, d'efficacité, d'une certaine sobriété. Et l'on a un étalage agité et parfois même immature.
Les principaux membres du Parti Socialiste se sont transformés en paparazzi. Eh bien, ils auront en face d'eux le choc des idées, le choc de la vérité et le choc des réformes.
Bonsoir à tous et bienvenue à Politique Addict numéro 2. Déjà la numéro 2, ce sera, je crois, l'émission de l'émancipation, ou plutôt de la mue vers le plus grand professionnalisme radiophonique. Nous avons donc invité cette semaine un homme en pleine mue, un homme qui vient de perdre son duvet de syndicaliste au profit du poil dru de la politique, Bruno Julliard. Ancien leader de l'UNEF et pourfendeur du CPE, il est aujourd'hui candidat PS sur les listes parisiennes. Il nous dira si les manifs et les AG ne lui manquent pas trop. Il nous dira officiellement s'il est candidat à la tête du PS. Rien, on rêve d'une dépêche AFP. Et enfin, nous le testerons face au choc des idées de Nicolas Sarkozy. Politique Addict, deuxième, c'est parti.
Le choc des idées d'un seul Français, qui est Nicolas Sarkozy.
Nous avons besoin
que d'un seul Français, qui est Nicolas Sarkozy.
Un étalage.
D'un seul Français, d'un seul Français, d'un seul Français, d'un seul Français.
Bonsoir Bruno Julliard.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous avez peut-être remarqué que nous ne sommes pas seuls dans cet immense studio. Autour de nous, une bande de joyeux coquinous, à commencer par notre Carole Nationale. Bonsoir Carole.
Bonsoir à tous.
Et réalisatrice de cette émission. À côté d'elle, notre Xavier International, puisqu'il revient de New York City. Hi buddy.
Bonsoir Thomas, bonsoir Bruno.
Laissez-moi également Bruno vous présenter la plus worldwide d'entre nous. Salut Bérangère.
Bonsoir Thomas, bonsoir Bruno.
Et enfin, notre chroniqueur, alors lui 100% local, hein, tout droit venu de Jouy-en-Josas, Philippe, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Alors, avant Bruno Julliard, vous étiez le dirigeant de la principale force syndicale étudiante. Hein. Vous serriez les mains des ministres et même des présidents. Et vous étiez convié sur les plus grands plateaux de télé. Alors aujourd'hui, vous serrez quelques mains sur les marchés, je pense, j'imagine. Et vous êtes reçu dans Politique Addict sur RMT. Est-ce que ça vous manque pas un petit peu votre vie d'avant quand même?
Non, pas du tout. Pas du tout, j'ai pas de regrets. Par nature d'ailleurs, je regrette rarement les choix que j'ai pu faire. Et quitter l'UNEF, ça n'a pas du tout été une souffrance pour moi. Plutôt au contraire, parce que j'ai eu un mandat de... Non, quand même pas, parce que c'était un grand plaisir et un grand honneur aussi. Mais 2 ans et demi de président de l'UNEF, c'est déjà pas mal. En plus, dans mon mandat, j'ai eu quand même beaucoup de choses, beaucoup de chance aussi. Il y a eu la mobilisation contre le CPE, il y a eu l'élection de Sarkozy, mais surtout la négociation de la loi autonomie derrière. Donc c'était un mandat assez dense. J'étais assez content de passer à autre chose.
D'accord. Alors au programme ce soir, beaucoup, beaucoup de choses, puisqu'il va y avoir votre portrait dans un instant. On va ensuite faire un quiz sur l'actualité politique de la semaine avec Carole, une chronique sur le web. Ce sera la chronique de Bérangère tout à l'heure. Et puis, je vous en dis pas plus sur le petit papier que nous a préparé Philippe, mais qui, comme d'habitude, n'aura rien à voir. Alors, Bruno Julliard, ce dimanche, ça y est, c'est les élections.
Oui.
Vous êtes un petit peu stressé ou pas?
Bah oui, plus les jours approchent, enfin plus les élections approchent, plus le stress vient. C'est vrai que on a un stress particulier à Paris sur le premier tour des élections, donc dimanche prochain, le 9 mars, parce que alors j'ai l'habitude de dire maintenant que c'est un peu des inquiétudes de luxe, mais c'est vrai que on nous annonce une avance tellement importante au premier tour pour les listes de Bertrand Delanoë à Paris. Que du coup, on a quelques craintes que si on est 5 ou 6 points en dessous, alors même des sondages, alors même que ça serait un très bon score, on peut avoir quelques craintes qu'on nous dise que finalement c'est moins bon, c'est une contre-performance. Donc il y a toujours ce stress du premier tour. En plus, pour plein de raisons, c'est très important qu'on fasse un score le plus élevé possible au premier tour. Donc oui, il y a évidemment un peu de stress. Ouais.
Il y a un peu de stress également pour votre maman, parce qu'elle aussi, elle est candidate. Et pour elle, ça va être un petit peu plus difficile. Elle est maire de Puy-en-Velay.
Oui.
Et son challenger, c'est le porte-parole du gouvernement, Laurent Wauquiez. Alors selon les derniers sondages, il serait vainqueur à 57%. Est-ce que vous allez aider maman?
Aïe. Oui, je suis déjà allé l'aider, enfin l'aider en tout cas, aller la soutenir. Je ne sais pas si je l'ai aidée, mais je l'ai soutenue en tout cas. Bon, j'ai pour être franc, déjà par nature, peu de fois dans les sondages, mais particulièrement celui-là, ça serait trop long d'expliquer pour quelles raisons. Mais non, c'est une élection qui va être très serrée. Moi, je pense que la France va pas bien, donc elle mérite d'avoir des ministres à temps plein. Donc j'espère que les électeurs Pono libéreront Laurent Wauquiez de toute autre responsabilité que son ministère.
Et c'est à temps plein que Xavier a bossé pour faire votre portrait. On a déjà parlé de maman, on va parler de votre vie.
Je ne sais pas pourquoi Madame Royal s'énerve. Et pourquoi...
Je ne m'énerve pas, je suis en
colère.
Qu'est-ce
que ça doit être quand vous êtes énervé ? C'était
très bien, c'était très bien.
J'ai travaillé, mais je me suis surtout insurgé. Hier soir, fidèle à son grand sens de l'organisation, Thomas Hill me laisse un message sur mon téléphone pour me donner le nom d'invité d'aujourd'hui. Derrière quelques secondes, je parviens à entendre leader opposition étudiante CPE. Et là, je me dis chouette, chouette, après Kitry Delmas, on reçoit Julie Coudry. Dis donc la radio, c'est mieux que Mythique. Et je dois dire, Bruno, que j'ai été très déçu. Il y a 20 minutes de vous voir arriver. Mais rassurez-vous, j'ai du biscuit sur vous. Je contiens depuis quelques temps, tapis au fond de moi-même, l'envie de vous casser verbalement la gueule. Vous êtes en effet responsable de plusieurs échecs dans ma vie. Responsable de la perte d'un paquet d'amis avec qui je me suis mis du jour au lendemain à parler esclavagisme et prise d'otage. Et merde, de toute manière, vous en aurez plusieurs des boulots. Et puis faites comme moi, soyez bon dès le début. La perte d'un mois de fausse glandouille à se lever tous les jours pour faire le trajet jusqu'à l'université pour pouvoir voter la levée de cette privation de liberté. Vous êtes aussi responsable de mon entrée dans un service d'ordre avec bombers et brassards orange. Et ça, je ne vous en serai jamais, mais alors jamais reconnaissant. Enfin, vous êtes responsable, et c'est plutôt un bon point de m'avoir fait découvrir Jules Coudry. Mais le problème, c'est qu'à chacune de ses apparitions, vous ne pouviez pas vous empêcher de lui coller à la casquette. Alors, même si vous essayez tant bien que mal depuis quelques mois de vous départir de cette image de jeune étudiant syndicaliste, propre sur lui, eh bien, moi j'en rajoute une couche sur ce machin qui restera à jamais gravé sur votre front. Trois lettres de gloire, CPE. Au fait, Bruno, pouvez-vous nous rappeler ce que CPE signifie ?
Contrat première embauche.
Eh ben non, là, vous me décevez. Bruno, Bruno Julliard, vous n'y êtes pas, mais pas du tout. C'est fini, mon petit Bruno, la vie étudiante. La tournée des bars de la rue Sainte-Catherine à Lyon, les réveils titubants à côté de...
Absolument.
C'est quoi déjà son nom ? Non, ne me dites pas, Julie Coudry. Fini les... Ah zut, mon cours de sociologie des interactions au Pérou de 63 à 71 vient juste de se terminer, je suis encore sous ma douche. Et plein de bonnes choses qui rythment habituellement la vie d'un étudiant. Non, fini tout ça. Maintenant, que vous le vouliez ou non, CPE signifie pour vous contrat politique électoral. Vous êtes depuis le 8 décembre dernier une bête politique, un chasseur de voix. Vous êtes surtout un élément de rupture. Bah oui, sur des coups de fil insistants de Bertrand Delanoë, vous devenez éligible. Car la rupture et vous, ça ne fait qu'un. Vous êtes un joli mâle caucasien, issu du syndicalisme étudiant, qui n'a jamais exercé d'autre métier que celui de représenter ses concitoyens. Bref, qui ne puisse... ressembler au parcours, rien qui ne puisse ressembler au parcours d'un vieux briscard de la politique. Bref, vous êtes candidat dans le 13e arrondissement de Paris, un arrondissement que vous ne connaissez bien, que vous connaissez bien, pardon, pour n'y avoir jamais habité. Je sais, ça vous énerve qu'on dit cela, mais moi ça tombe bien, ça m'énerve aussi.
C'est vrai, ça, vous y avez jamais habité dans le 13e ?
Non, mais ça m'énerve pas du tout d'ailleurs, qu'on me le dise. Je le dis à toutes les interviews, effectivement, je n'habite pas dans le 13e. Il est peu probable que j'y habite d'ailleurs.
Mais vous habitez à Paris.
Absolument, voilà. Oui, quand même.
Vous êtes quand même populaire dans le 13e, vous êtes un peu le Jesus des étudiants là-bas avec Tolbiac. Le 13e arrondissement, pour les non-parisiens, hein, c'est un peu l'endroit où personne ne veut habiter, c'est mal desservi par les transports en commun, et du coup c'est juste bon pour y caser des étudiants en leur faisant payer 600 euros une chambre de 20 mètres carrés quand ils en ont la chance. Vous ne vous plaignez pas, vous avez une chambre de 30 mètres carrés, vous l'avez dit.
Mm-hmm. Pas mal.
Juste de quoi inviter Julie Coudry pour un dîner aux chandelles.
On y revient.
Non, pour cette population du 13e, vous êtes le messie, celui qui par la bonne parole est arrivé, et le représentant d'une jeunesse grave vénère qui pour la première fois dans l'histoire s'apprête à vivre moins bien que ses ancêtres, qui va devoir en plus réparer la nature de toutes les erreurs commises et qui ne peut même pas aller se fumer des joints avec de la drogue à Woodstock parce que les années 60 c'est fini. Et à ce sujet, vous avez dit, la jeunesse aujourd'hui a du mal à croire en la politique, en l'engagement de tout genre. Elle arrive pour une partie à trouver refuge dans d'autres manières de s'exprimer son mécontentement. Cela peut être la violence, le communautarisme, l'intégrisme et l'obscurantisme. Là, j'avoue que vous allez un peu fort. Même Nicolas Sarkozy n'oserait pas nous faire aussi peur, mais moi j'y crois. Et ce lien avec la jeunesse, vous le devez à vos 3 ans de présence à la tête de l'UNEF, que vous avez quitté, 2 ans et demi vous avez dit tout à l'heure, que vous avez quitté sans surprise pour rejoindre le Parti Socialiste. Bah oui, finalement, sortir de l'UNEF pour entrer au PS, c'est un peu comme sortir d'un concert de Faudel et de s'acheter une paire de mocassins. C'est un peu la porte à côté. Vous étiez d'ailleurs membre du MJS avant de devenir président de l'UNEF, mais honnête que vous êtes, vous avez rendu votre carte en accédant au poste suprême. On dit cependant que vous n'avez jamais cessé de rencontrer vos mentors François Hollande et Henri Emmanuelli,
Mais on va pas chipoter, c'est comme si on reprochait à Laurence Parisot de passer plus de temps avec Philippe Seguin qu'avec Arlette Laguiller. Mais bon, votre entrée en politique, on la comprend bien, non, parce que comme votre sortie du syndicalisme n'a pas été bien brillante, c'est vrai quoi, essayer de lancer une grève cet été, une grève étudiante en plein mois de juillet, c'est pas la meilleure idée que vous ayez eue. Et puis, on vous reproche aussi d'avoir, si et là, succombé au charme de Valou, de Valérie Pécresse. C'est pas très gentil pour Julie, mais c'est sympa pour moi de laisser la voie libre. Mais vous déchantez assez vite avec Valérie Pécresse, et paf, vous l'aimez plus trop. Et puis, moi j'ai à peine eu le temps de dégainer avec Julie, vous revenez à la charge, au syndicalisme. Vous êtes vraiment pas sympa. Heureusement, votre entrée en politique vous fâche définitivement avec la leader de la Confédération étudiante. Depuis, vous passez votre temps sur les marchés à distribuer des bouts de papier. Pas vraiment l'idéal pour faire fonctionner un couple. Alors je terminerai mon portrait par une question. Avez-vous encore, oui ou non, des relations avec Julie Coudry?
Non, j'en ai très rarement eu d'ailleurs.
Dommage.
J'en suis désolé, je m'en porte très bien pour être franc.
Comment ça se fait parce que vous avez été dans beaucoup de combats avec elle quand même?
Oui, mais il y a toujours eu une petite concurrence. En plus, nos relations sont mal parties parce qu'elle était membre de l'UNEF et elle a quitté l'UNEF en 2001, je crois.
C'est une concurrence entre vos syndicats ou entre vos personnes, Zer?
Pas entre nos syndicats, parce que maintenant je suis plus à l'UNEF, donc je peux encore plus en faire la promotion, mais ou alors ça serait une concurrence inégale quand même entre l'UNEF et la Confédération étudiante. Les deux organisations ne jouent pas tout à fait dans la même cour. Mais non, oui, il y a une concurrence au début.
Au début
du CPE, il y avait une concurrence médiatique entre nous deux. Ouais.
Et puis, c'est vrai que vous étiez vraiment les deux figures de proue de la lutte contre CPE.
S'est très vite rendu compte que, heureusement, je ne l'ai jamais dit d'ailleurs, je lui ai fait une déclaration ce soir, elle sera très surprise a priori, mais heureusement qu'on était deux quand même à être porte-parole pendant la mobilisation contre le CPE, parce que des épaules aussi solides soient-elles n'auraient pas résisté seules. Donc c'était bien quand même qu'il y ait deux porte-parole. En plus, on était complémentaires parce qu'elle jouait la carte peut-être plus de l'ouverture que moi, qui était peut-être plus la carte de le représentant des assemblées générales. Elle, c'était plus l'ouverture politique.
Alors, la question sérieuse qui sous-tendait la question un peu légère de la fin de mon portrait était celle-ci. En tant que peut-être prochaine élue politique, vous allez garder vos convictions de défendre donc cette jeunesse universitaire. Quelles sont un peu les mesures que vous souhaitez porter dans le 13e arrondissement?
D'abord, je fais juste une correction. Le 13e arrondissement est un très bel arrondissement qui est bien desservi maintenant, en tout cas mieux desservi depuis 7 ans qu'auparavant. C'est vrai que parmi les choses que j'ai envie de faire à la mairie de Paris, il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec mon engagement syndical à l'UNEF et à l'université. Ce qui m'a le plus séduit et ce qui a contribué d'ailleurs à ce que je dise oui à Bertrand Lannoy lorsqu'il m'a proposé d'être candidat avec lui, c'est son projet pour la recherche, l'enseignement supérieur, l'université. On prévoit d'investir plus d'un milliard d'euros en 6 ans dans l'université. Je pense que les priorités, ça doit être le logement étudiant, l'amélioration de la mobilité des étudiants, à l'échelle européenne notamment, et puis surtout les bâtiments, parce qu'il y a un manque malheureusement important de bâtiments universitaires pour les universités. Il ne s'agit pas de créer une nouvelle université, mais de créer de nouveaux bâtiments universitaires, notamment un nouveau site universitaire au nord-est de Paris. Et ça, c'est un défi qui, moi, m'intéresse beaucoup.
Mais je pensais que la mairie n'avait pas accès aux fins de... C'est plutôt les régions qui s'occupent des universités.
Normalement, c'est l'État, mais heureusement que les collectivités locales investissent, elles aussi, dans l'enseignement supérieur. Il faudrait évidemment, et moi qui ai toujours défendu le caractère national de l'enseignement supérieur, c'est pas parce que maintenant je vais être élu à la mairie de Paris que je vais demander évidemment le transfert de compétences, bien au contraire. Mais cela dit, il est plutôt sain qu'il y ait des partenariats, notamment de financement entre l'État et les collectivités. Il est hors de question, évidemment, que la mairie de Paris investisse seule dans la construction de bâtiments universitaires.
Alors, vous entrez en politique, il y a certaines personnes qui vous trouvent plus calme. La semaine dernière, Kitry Dalmas, c'était notre invitée, elle a dit qu'elle vous trouvait très calme depuis que vous n'êtes plus
même
patron de l'UNEF. Voilà, policée. Et selon elle, vous avez perdu vos grands idéaux. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Ça serait dommage. Non, je n'ai pas perdu mes idéaux. Je pense que l'erreur, elle n'est pas tellement maintenant. Elle était dans la perception, ou plutôt dans l'image que je donnais peut-être, que les gens avaient lorsque j'étais président de l'UNEF. Il se trouve que j'accédais aux médias uniquement en temps de crise, c'est-à-dire pendant le CPE où je m'opposais au gouvernement, puis pendant la négociation de la loi où c'était mon rôle de faire avancer les revendications. Ouais. Donc j'étais très revendicatif. Et puis après, il y a eu les mobilisations. J'ai pas du tout cherché à lancer, mais après le vote de la loi, donc à l'automne dernier. Donc à chaque fois que j'apparaissais dans les médias, c'était plutôt effectivement pour m'opposer au gouvernement. Et il se trouve qu'effectivement, peut-être par nature, lorsque j'ai des convictions, j'aime bien les défendre jusqu'au bout. Donc j'avais peut-être cette image plutôt radicale.
Mais pour être la franc, politique, ça personnellement, ça peut surprendre, mais pour être franc, par nature, je suis quelqu'un qui cherche plutôt à éviter les conflits, en réalité. Ouais. Donc,
ça a dû être dur, alors. Ouais, pour
ça a dû être dur, là, vous avez fait un gros travail sur vous.
Je suis plus naturel maintenant que je ne l'étais peut-être auparavant.
Ouais. Un mot sur Jean-Baptiste Prévost, qui est votre successeur. Est-ce qu'il pourra avoir une belle place médiatique, comme vous avez pu l'avoir? Est-ce qu'il a la capacité de prendre
votre
suite?
Je pense que ce n'est pas moi qui ai gagné une place médiatique ou qui ai gagné une notoriété. C'est l'UNEF qui, je pense, a progressé. D'abord, c'est le cas électoralement, mais elle a également progressé un nombre d'adhérents. Et surtout, elle a progressé dans la pertinence de son discours, qui est peut-être plus mesuré qu'auparavant. Donc, elle arrive à agréger plus de gens. Oui, plus écouté, parce que peut-être plus modéré. Donc, elle arrive à agréger plus de gens autour d'elle. Et je crois que c'est l'UNEF qui passe dans les médias. Mais cela dit, Jean-Baptiste est un, je pense, un excellent président de l'UNEF.
Alors, juste sur votre transition entre le syndicalisme et la politique, vous avez eu une maîtrise absolument parfaite de votre agenda, puisque je reviens un petit peu sur votre agenda de l'époque. Le 29 novembre 2007, hein, vous avez appelé à la levée de la grève contre la loi Pécresse. Le lendemain, le 30, vous annoncez que vous allez quitter vos fonctions à l'UNEF pour des raisons personnelles. Hein. Et puis, une semaine plus tard, vous officialisez votre présence sur la liste socialiste.
Ouais, il n'y a pas beaucoup de hasard là-dedans.
Non, il n'y a pas beaucoup de hasard.
En réalité, j'ai un peu modifié ce calendrier parce que je voulais annoncer ma démission de l'UNEF plus tôt. Mais j'avais peur parce que lorsqu'on annonce la fin de la grève, la levée de la grève pour l'UNEF, c'est parce qu'on a un accord avec le gouvernement et que le gouvernement a cédé, notamment sur des éléments financiers aux étudiants. Et j'avais peur d'annoncer ma démission de l'UNEF avant que nous ayons cet accord. Parce que j'avais quelques craintes qu'il soit instrumentalisé ou utilisé par le gouvernement, notamment par le fait que le gouvernement aurait pu espérer attendre mon départ en espérant que du coup, par exemple, il y ait moins de potentiel médiatique pour l'UNEF. Et que, donc je souhaitais qu'au maximum, on puisse terminer la grève, mais sur une victoire, et après annoncer mon départ. Cela dit, le gouvernement était au courant que j'allais quitter l'UNEF, je l'avais dit à Valérie Pécresse, et qu'il savait pourquoi d'ailleurs. Mais je leur avais bien dit que le temps n'était pas un problème pour moi. J'aurais pu attendre plusieurs semaines, j'aurais pu attendre d'ailleurs l'année 2008. Hein,
Vous avez eu peur quand même de rater cette transition entre les deux mondes, parce que sur la loi Pécresse, on a vu que bon, avant l'été, vous étiez globalement d'accord, et puis finalement, en revenant des vacances, il y a des manifestations qui commencent à se lancer dans les facs. Alors là, on vous a un peu critiqué pour avoir un peu rattrapé le mouvement, vous êtes mis derrière le train un peu à retardement. Est-ce que vous avez eu peur de cette contestation-là? Est-ce que vous avez voulu la maîtriser?
Je pense que j'ai fait une erreur et l'UNEF a fait une erreur assez conséquente parce qu'on a payé assez cher à l'automne dernier. Ça a été une erreur de communication au mois de juillet. Nous n'avons jamais été d'accord avec cette loi. Lors de la première version de la loi présentée par Nicolas Sarkozy et Valérie Pécresse, elle était pour nous inacceptable. On a engagé des négociations, c'était en plein mois de juillet, donc on ne pouvait pas appeler à la grève au mois de juillet, évidemment. Donc on était obligé de négocier pour essayer d'avoir la loi la moins mauvaise possible. Ce que nous avons obtenu, parce qu'on a obtenu quand même des avancées, mais in fine, lorsqu'elle a été votée, on disait quand même qu'elle ne nous satisfaisait pas. Et surtout, on avait eu au mois de juillet des promesses conséquentes, certes qui n'étaient pas écrites, mais des promesses conséquentes budgétaires, notamment pour la rentrée suivante. Promesses qui n'ont pas été tenues et qui nous ont poussé à hausser le ton à la rentrée. Au final, j'ai la conviction l'UNEF n'a pas réellement changé d'opinion entre le mois de juillet et la rentrée, et le mois de septembre-octobre, mais c'est plutôt le gouvernement qui n'a pas tenu ses promesses. En tout cas, c'est la conviction que j'en ai aujourd'hui. Au final, le résultat est plutôt positif parce qu'on a eu des engagements financiers qui étaient supérieurs à ce qu'on avait obtenu au mois de juillet. Donc au final, l'UNEF et toute action syndicale, d'ailleurs, elle ne doit être jugée que sur ses résultats. Je peux comprendre que ça apparaisse comme étant pas clair, pas lisible, mais enfin, au final, ce qui compte, c'est le résultat qui est plutôt positif, ouais. Je pense.
Alors, vous voyez justement des résultats positifs à travers le CPE, à travers la loi Pécresse et ce que vous avez réussi à obtenir. Pourtant, on a l'impression quand même qu'il y a une forme de désamour de la base vis-à-vis de votre personnalité même. Alors, on peut se méfier et se défier des sources que j'ai pu prendre, mais c'est vrai que sur le net, on n'est pas tout le temps très tendre avec vous, de Facebook à beaucoup de blogs. Alors que ce n'est pas tout le temps le cas de tous les leaders syndicaux étudiants. Comment est-ce que vous l'expliquez?
À mon avis, un peu parce que, pour la même raison que j'évoquais tout à l'heure, à la fois, je suscite une antipathie assez importante sur ma gauche, je le reconnais tout à fait, parce que je symbolise peut-être le président de l'UNEF qui a un peu recentré la ligne syndicale de l'UNEF. En tout cas, qu'il a peut-être qui est à l'origine d'une ligne moins radicale pour l'UNEF.
ce qui me crée effectivement beaucoup d'inimitié à l'extrême gauche notamment, qui est puissante, qui est forte dans le milieu étudiant, qui est heureusement très minoritaire, mais qui est quand même forte. Et puis évidemment, sur la droite, là, c'est encore plus évident. On a infligé une défaite au gouvernement avec le retrait du CPE. Franchement, j'imagine que je serais moi-même militant de droite, je ne l'aurais toujours pas avalé, donc je serais moi-même très sévère avec moi-même. Après, il y a peut-être d'autres choses, hein, mais bon, après, c'est j'en sais rien, c'est affectif ou c'est ma gueule qui ne revient pas, j'en suis désolé pour eux, mais qui zappent ou qui passent à autre chose.
Alors, on l'a vu dans le portrait de Xavier tout à l'heure, vous êtes issu d'une famille qui est très engagée politiquement, votre mère Arlette, hein, ça c'est quand même un prénom qui s'invente pas, qui est maire donc du Puy-en-Velay, et puis votre beau-père aussi, je crois qu'il est militant communiste, c'est ça. Alors, on se disait que c'était le moment idéal pour ouvrir notre jukebox politique et en sortir une petite chanson des Fatal Picards.
Son enfance, on m'a pas laissé être droitier. Mon père m'emmenait jamais au square, mais aux réunions de comité. Mon père était tellement de gauche qu'on habitait rue Jean Jaurès, en face du square Maurice Thorez, avant d'aller vivre à Montrouge. La 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 la. En urs l'hiver, les pays de l'Est, c'est mieux l'hiver. On voit bien mieux les bâtiments, les nuances de gris, ça flash sur le blanc. Devant la statue de Lénine, pour nous c'était le grand frisson. Moins 24, c'était pas terrible, mais les chapkas étaient en option. Mon père était tellement de gauche que quand est tombé le mur de Berlin, il est parti chez Casto pour acheter des parpaings. La 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 la. Fallait vraiment faire attention. T'avais du chou, une pomme de terre. La viande, elle était en option. On achetait du Coca-Cola Cause, approuvé par le comité. Ça devait soigner la silicose. On s'en servait pour désherber. On regardait pas la contrebande, on regardait pas la corruption. La Sibérie, c'était Disneyland. Le discernement en option. Mon père était tellement de gauche qu'à son mariage dans l'église, on chantait l'International. Les femmes portaient des fossiles. Mon père était tellement de gauche qu'on a eu tout plein d'accidents. Il faisait la priorité à droite systématiquement.
Mon père était tellement de gauche, les Fatal Picards.
C'était sur l'album Pamplemousse Mécanique. En fait, c'était pas votre père, c'était votre mère de gauche. Alors, l'affiliation politique, ça vous a beaucoup servi dans votre jeunesse?
Je ne sais pas si ça m'a servi, en tout cas c'est très probablement la genèse de mon engagement. Oui, c'est le contexte familial très engagé, mais finalement pas très politiquement en réalité, parce que ma mère était surtout engagée associativement et syndicalement. Mon père aussi était plus un syndicaliste qu'un politique, alors tous deux étaient adhérents d'un parti politique différent d'ailleurs, ce qui valait de beaux débats dans la famille. Mais c'est ce qui m'a fait aimer l'engagement, aimer la politique et l'actualité. En revanche, lorsque j'ai eu 18 ans, ma première envie quand même, c'était de m'émanciper. Et j'ai failli, alors aujourd'hui,
m'émanciper, c'est quoi?
C'est-à-dire que j'ai failli vouloir prendre le contre-pied, quoi. Et notamment, j'ai été séduit.
C'est à droite.
Séduit par l'extrême gauche pendant quelques semaines. Et puis ça n'a pas duré parce que j'ai trop envie d'avoir des résultats concrets, donc le.
C'était quoi la LCR,
c'était un engagement d'extrême gauche, donc c'est tout ce qui, vous savez, il y en a beaucoup à l'université, donc en tout cas moi à Lyon 2, là où j'ai commencé mes études, donc mais ça a dû durer quelques jours, et puis au final le syndicalisme m'a plu, et puis après l'engagement politique à peu près en même temps d'ailleurs.
Allez, c'est l'heure maintenant de notre quiz d'actu politique. On va tester vos connaissances et nos connaissances sur l'actualité politique de la semaine.
J'espère que vous avez lu la presse, écouté la radio et regardé la télévision. On va commencer donc avec une petite question. N'oubliez pas de crier votre prénom, j'aime beaucoup ça. Hein. Donc Bernard Kouchner était l'invité de France Inter ce matin. Il est revenu sur un point de désaccord avec son big boss. Selon lui, en quoi Nicolas Sarkozy a eu tort?
En quoi il a eu tort?
Est-ce que c'est pas quand il a félicité Poutine?
Non. Non, non, ça c'est pas encore trop remis en
politique
cause.
Extérieure, on est d'accord.
Ouais. Non, non, politique intérieure. Sur ses idées plutôt.
Ah, le test ADN?
Non plus.
Bernard Kouchner, il aurait quand même.
Bernard Kouchner, c'est un ancien.
Il a contesté la nomination de sa femme.
Non. Alors là, non, ça serait la grosse crise dans le couple. Non, ce n'est pas ça.
Est-ce que
le
c'est
devoir de mémoire?
Non, non plus.
Le conseil constitutionnel.
Ça peut être un devoir de mémoire pour certains.
Mais
ça...
Ah, c'est pas sur l'histoire de mai 68.
Tout à fait.
Yes.
Et yes, one point pour Thomas. Il était quand même voilà engagé lui aussi dans mai 68 et 40 ans après en fait il dit qu'il n'a pas changé d'opinion et qu'il ne partage pas donc l'avis de Nicolas Sarkozy.
Ah, il y en a un au moins qui partage pas son avis.
Deuxième question. Comment s'appelle la nouvelle star, non pardon, le nouveau tsar de Russie? Ah, attention, blague de naze.
Dimitri.
Dimitri Medvedev.
Bravo Xavier.
Sans I après le
collégial. Philippe l'avait aussi.
Il a essayé de se placer en collégial.
Félicitations.
Thomas, tu comptes les points?
Ça fait un partout là.
Non, alors Poutine est encore, c'est vrai, au pouvoir.
C'est pas Poutine après Poutine.
Mais alors justement, Poutine, il va devenir Premier ministre. Il descendra cran, mais il reste au pouvoir.
Oui, enfin, Premier ministre avec concrètement énormément de pouvoir.
Voilà, en fait, c'est un peu. Certains parlent de marionnettes. Vous en pensez quoi, Bruno Julliard?
J'en pense que, pour une fois d'ailleurs, je trouve que Nicolas a eu raison de ne pas encore appeler le nouveau président pour le féliciter.
Il l'a appelé, bien sûr, il a jugé son succès très convaincant.
Très convaincant, ah bah oui, plus de 70%. Voilà. On n'est pas encore tout à fait dans les scores staliniens, mais on va s'en approcher.
Ou pas. Oui, donc vous êtes intime avec le président, c'est Nicolas.
Ouais, c'est Nicolas.
Oui, vous l'appelez par son petit nom, mais c'est mignon. Ça, c'est les vieux couples, hein. C'est normal.
Il vous a peut-être appelé ce matin, on sait jamais.
Allez, troisième question.
Selon le sondage paru ce matin dans Libération, combien de Français estiment que Nicolas Sarkozy ne se contrôle pas assez? Bravo.
Ne se contrôle pas assez?
Ouais.
74%.
Et 65% des sympathisants UMP regrettent son manque de sang-froid. Attention, question pour Bérangère. Quel soldat a retrouvé son père ce week-end?
Le prince Harry.
Ouais.
Oh, joli. Bravo. Joli.
Bravo. Joli.
Et oui, il était en Afghanistan pendant 10 semaines et c'était une info tenue secrète, mais certains médias américains sur des sites internet, c'est pour ça Bérangère, je pensais que t'étais au fait de l'actu.
J'étais au courant, mais Bruno Julliard a déglé plus vite.
Ça fait 2 points pour Bruno Julliard qui est en train de nous mettre la pâtée.
Ok, autre question alors, soyez bon. Autre sondage, qui de Nicolas Sarkozy ou de Ségolène Royal gagnerait la présidentielle?
Ségolène, non, c'est vrai.
C'est une bonne question, bonne
51%
réponse.
51% contre 49%, elle doit être bien verte, Ségolène, il suffisait d'attendre un an. Combien de personnes étaient présentes lors du zénith de Delanoë à Paris?
30 000.
Non, 10 000.
3 000,
un peu plus de
3 000. 3 000, bravo.
3 000 personnes seulement.
Vous aviez 30 000,
c'est pas mal.
C'est pas terrible.
Françoise de Panafieux, Françoise de Panafieux, au maximum, a rassemblé 700 personnes quand même.
Ah.
Si on a un score au premier tour proportionnel, ça nous conviendra tout à fait.
Mais elle a fait un zénith pourtant aussi.
Non, non, elle a fait une salle.
L'équinoxe,
je crois.
Elle aurait tenté un slam, mais.
Ouais, ça aurait été.
Échec.
3 000 en pleine vacances scolaires, c'est pas mal.
C'est pas mal. Combien coûtera une scolarité à la fac de Dauphine l'année prochaine ou dans les années à venir?
3 000 euros. Là, vous êtes pessimiste, parce que c'est toujours pas tranché, cette affaire, quand même.
Ouais.
Je pense que ça coûtera le même prix dans les autres facs. Je pense qu'ils n'y arriveront pas.
Ils n'y arriveront pas?
Ouais.
Et alors, vous savez à peu près combien c'est planifié, ce qu'ils aimeraient obtenir?
2 000.
Non, je ne me souviens plus.
3 000.
Moi, ça irait jusqu'à 3 000 euros en 2009, effectivement.
En même temps, pas grand monde se plaint à Dauphine.
Non, il faut reconnaître que vu les critères de sélection à Dauphine, beaucoup d'entre eux peuvent se payer ce prix-là. Le problème, c'est le précédent que ça crée, qu'une université puisse, en gardant le même statut d'ailleurs, puisse délivrer des diplômes nationaux alors qu'elle fait payer 10 fois plus.
C'est justement ce qu'ils veulent faire, ils veulent changer de statut, mais ça c'est un peu l'arlésienne de Dauphine. Mais...
Ouais, ils veulent changer surtout la qualité de leur diplôme, ça, les passer en DU.
Oui, mais du coup c'est pas bon pour les étudiants parce que partir à l'étranger, alors Dauphine certes a une bonne réputation, mais enfin partir à l'étranger lorsqu'on n'a pas le diplôme national, parce qu'ils ne pourront pas délivrer le master, heureusement d'ailleurs. C'est quand même pas bon pour les étudiants. C'est ce qui fait, je pense, et Valérie Pécresse d'ailleurs là-dessus a été plutôt irréprochable. C'est ce qui fait d'ailleurs, je pense, qu'ils font machine arrière.
Dernière question pour vous départager ou pas?
Bah,
Thomas,
oui, parce
point
que
sur les scores, suspense.
Philippe est au coude à coude avec Bruno Julliard.
Ok, c'est une finale. C'est une finale.
Collégiale.
Quelle est la particularité de Pascal Ourbib, candidate pour la première fois pour les Verts dans le 16e arrondissement de Paris?
Elle est transsexuelle.
Tout à fait. Alors. Petite phrase à retenir et à méditer. Non, j'adore cette phrase. La politique, c'est aussi dur que Pigalle.
Ah, pas mal.
Pour une transsexuelle, pas mal. Une belle phrase de campagne, tout à fait, à lire. Je l'ai trouvée dans Le Parisien. Non, c'est vrai. Donc, bravo, Bruno. C'est bravo.
C'est ça la nouvelle politique. Maintenant, il faut un maximum de diversité. Ça va. Ouais.
Par ailleurs, c'est pas la seule sur les listes aux élections municipales à Paris. Mais les Verts ont souhaité faire de la com là-dessus, ce que je trouve assez étonnant d'ailleurs, ouais. Parce que quitte à faire la diversité, autant que ça apparaisse naturel et qu'on n'en fasse pas un argument de communication.
Vous êtes un des rares jeunes aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait aussi, comme on a fait pour les femmes, des quotas sur les listes, il faudrait des quotas de jeunes?
Non, alors,
ça n'a vraiment rien à voir.
Ça n'a rien à voir, oui, non.
Mais... Vous êtes un des rares transsexuels, Bruno Julien. Comment lancer une
Donc finalement, c'est bien Julie Coudray qui va recevoir ce soir, mais qui a beaucoup changé après opération. Non, pas du tout. Non, par ailleurs, ça n'a vraiment rien à voir. La parité entre les hommes et les femmes, ça n'est pas la même chose que des quotas, soit pour les origines ethniques, soit pour les générations. Les femmes, c'est 50% de l'humanité, tout comme les hommes, et il est normal qu'il y ait une parité sur les listes entre les hommes et les femmes. Pour le reste, non, moi je suis hostile à toute politique de discrimination positive. Par un système de quotas, qui, je pense, favoriserait le communautarisme. Or, c'est pas ma vision de la politique. En revanche, c'est vrai qu'il faut, que les partis politiques eux-mêmes se prennent en main et s'assurent qu'il y ait une juste représentation de l'ensemble des catégories sociales, des générations, des origines dans chacune des listes. Cependant, moi, je pourrais l'être parce qu'au final, je pourrais dire place aux jeunes et comme ça, il y aura des postes qui arriveront pour des jeunes. Honnêtement, je pense pas que ce soit une priorité absolue. Il faut qu'il y ait plus de jeunes, mais uniquement parce qu'il faut que la société soit bien représentée dans toute sa diversité. Mais je ne pense pas que les jeunes en politique, c'est ce qui fera que ça améliorera la politique. S'il y a une chose de bien répartie entre toutes les générations, c'est la bêtise. Et il y a au moins autant de bêtises chez les jeunes que chez les plus âgés. Ce qui compte, c'est le contenu des idées de chacun. Mais cela dit, c'est quand même important, évidemment, que toute la société soit représentée sur des listes.
Ouais. L'intelligence, c'est les bêtises du web. C'est Bérangère qui décrypte.
Ségolène Royal n'a qu'un seul défaut, c'est son compagnon.
Chères auditrices, chers auditeurs, chers internautes, je dirais même, chers audinautes, je suis heureuse de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle chronique de Clic-Clic Politique. Alors, en cette période d'élection municipale, tous les addicts de politique rêvent de suivre en direct la campagne de leur candidat. Sur quel marché serrent-ils les mains? Quelle salle de fête l'accueille en ce moment même? Dans quelle réunion d'appartement débat-il du projet de la ville? Quels sont les articles qui parlent de lui? S'il est vrai qu'Internet nous met déjà à disposition de nombreux outils pour accéder à ces informations, comment je fais, moi, pour être informé de ce qu'il fait là, maintenant, tout de suite, mon candidat, ma candidate préférée? Et c'est là que je vous donne la deuxième leçon pour être un cybercitoyen en herbe, que je vous livre le sésame qui va vous permettre de suivre à la trace, d'où que vous soyez, vos héros et héroïnes politiques. Noah Glass et Jacques Dorsey, au sein de la start-up Odeo, ont développé un outil qui est un mix entre le réseau social et le microblogging. Objectif, gazouiller avec sa communauté. Gazouiller? Quelle drôle d'idée, me direz-vous?
C'est la gazouiller, traduction quelle du drôle nom... d'idée.
Gazouiller, quelle drôle d'idée.
C'est la traduction du nom américain de cet outil, plus communément appelé Twitter.
Gazouiller.
Alors, comment le fil Twitter fonctionne? Vous créez un compte sur le site internet www.twitter.com.
Ah oui, j'ai essayé ça. Moi, ça marchait pas. J'ai pas compris comment ça marchait, ce truc.
Eh ben, écoute.
Tu t'appelles pas Bérangère. Ah.
Et vous pouvez, quand vous le souhaitez, informer votre réseau de ce que vous faites. Une seule contrainte, d'où le terme de microblogging, le message ne doit pas contenir plus de 140 caractères. Aurait pu être tweeté, par exemple, je suis avec Carla et Nelson, ou je viens d'insulter un type au salon de l'agriculture, François Bayrou me joue une sérénade sous ma fenêtre, ou Bruno Julliard est à ma droite right now.
Oh, wow.
Vous pouvez choisir d'envoyer et de recevoir des messages sous un bon nombre de moyens à travers le site web de Twitter, votre téléphone mobile ou votre messagerie instantanée, et tout cela gratuitement. Le pouvoir de ce nouvel outil n'a pas échappé, je dirais même n'a pas échappé du tout au candidat
dis-le.
Hillary Clinton, Barack Obama ou McCain. Mais qui sont les hyper gazouilleurs parmi nos candidats aux municipales?
Pour que ce soit bien clair, l'histoire, c'est que les candidats sur le web mettent des petits messages et tu peux savoir où est-ce qu'il en est. Quoi.
En fait, tu as
une espèce de blog interactif permanent.
Un blog amélioré. Quoi.
Voilà.
C'est pas un blog, c'est vraiment l'idée d'être en connexion constante avec sa communauté. C'est-à-dire que tu as un profil, par exemple, là j'ai parlé de Bertrand Delanoë, il a un profil Bertrand Delanoë, et il va envoyer plein d'SMS à tous les gens qui ont souhaité être informé par ce qu'on appelle tweet ou gazouille.
Voilà, c'est ça.
Donc voilà, ce qui est étonnant.
Une espèce de fil RSS sur qu'est-ce qui.
Exactement. Et vous recevez les messages sur votre portable, sur votre SMS.
Big Brother à l'envers.
Steak frites ou.
Vous ne le faites pas, vous.
Je suis sous ma douche, venez.
Mais surtout, je souhaite être dans la communauté de personnes.
Non, mais ce qui est étonnant, c'est que cet outil est utilisé par tous les candidats aux élections primaires aux États-Unis. Et en France, j'ai fait des recherches. Et alors là, c'est délicat. Bordeaux a bien un fil Twitter sans que soit défini clairement quel parti politique l'anime. Et le seul homme politique dont j'ai pu accéder à un fil Twitter et auquel je me suis inscrit de facto pour recevoir les messages, c'est Bertrand Delanoë.
Ah, vous voyez.
Bon, alors une communauté restreinte, certes, puisque seulement 174 personnes se sont inscrites à son profil, mais de très nombreuses informations, dont le gazouille suivant diffusé le 3 février 2008. Je vous attends nombreux mardi 5 février à 18h45 au meeting du 13e en présence de Jérôme Coumet. Alors Bruno Julliard, je vous pose la question en me tournant vers vous. Quand aurons-nous droit à vos gazouilles?
C'est pas demain la veille. Hein.
Vous êtes très
web et tout ça, non? Pas trop.
Non, si, je surfe beaucoup. Je suis très souvent sur Internet dans la journée. Mais moi, non, j'ai pas de blog. Je suis pas sur Facebook.
Comment ça se fait, ça? Ça vous intéresse pas? Ça vous...
Si,
c'est
si,
un
si,
super
ça,
moyen de communiquer.
Oui, si, je pense que c'est un excellent moyen de communiquer, mais tous les aspects outre que je ne saurais pas faire, c'est déjà un élément conséquent, important. Mais au-delà de ça, non, je pourrais me faire aider, par exemple, pour faire un blog, on me l'a proposé à plusieurs reprises, mais ce qui me dérange, c'est l'aspect très personnel d'un blog comme ça. Alors, un blog collectif, à la limite, pourquoi pas faire un blog personnel où je raconte ma vie, non, franchement.
L'idée, c'est peut-être plus raconter ses pensées, son action, ses idées.
Oui,
peut-être le risque des commentaires.
Peut-être lorsque je serai élu. Mais honnêtement, pour l'instant, j'ai pas ressenti le besoin. Ouais.
Ok, alors on va parler. On en a déjà un petit peu parlé avec vous à l'instant de l'université. Il y a une chose que vous avez dite, c'est à propos de Dauphine, c'est la sélection. Moi, je comprends pas bien pourquoi ce mot de sélection fait si peur. À tout bon syndicaliste étudiant qui se respecte.
Moi, je pense qu'il ne doit pas y avoir de tabou. Donc, là, il faut aborder la question de la sélection, non pas avec un dogme en disant on y est hostile ou on y est très favorable, mais il faut simplement, concrètement, regarder les conséquences qu'aurait aujourd'hui une sélection. Le problème qu'on va voir, c'est qu'en France, par rapport aux pays comparables à la France, on manque d'étudiants dans l'enseignement supérieur, particulièrement d'étudiants diplômés. Je doute que le meilleur moyen d'augmenter le nombre d'étudiants diplômés, ça soit de commencer par mettre une barrière à l'entrée de l'université en mettant en place une sélection. Ça, c'est le premier élément. Et le second élément, c'est que, au vu de la politique de massification qu'on doit avoir en France pour augmenter le nombre d'étudiants, la mise en place de la sélection, en réalité, elle n'existerait que dans quelques universités. C'est-à-dire, la cité Dauphine, mais ouais. Il y aurait, j'en cite en province par exemple,
c'est déjà 3, le cas à Dauphine.
Quelques universités d'élite. Qui pourront sélectionner, qui sélectionneront. Et puis à côté, on aura des facs de seconde zone qui, elles, ne sélectionneront pas, avec des moyens qui seront moins importants, parce qu'elles devront accueillir plus d'étudiants. Donc par tête d'étudiants, il y aura moins de moyens. Et on aura finalement une université à plusieurs vitesses, au moins à deux vitesses. Ouais. Alors on dit aujourd'hui, oui, mais aujourd'hui c'est déjà le cas, et c'est vrai, il y a aujourd'hui des inégalités entre universités. Enfin, c'est pas parce qu'il y a des inégalités qu'on est obligé d'augmenter ces inégalités. Et juste un élément quand même, on a en France un système d'enseignement supérieur qui est un des plus sélectifs au monde, en réalité, avec le système des grandes écoles. Où il y a une discrimination en l'entrée de l'enseignement supérieur qui est énorme en France. Donc non seulement il ne faut pas accroître la sélection, mais il faut au contraire diminuer la sélection dans un certain nombre de filières, notamment dans les filières qui aujourd'hui se retrouvent dans les grandes écoles. Et un dernier mot, le vrai problème, ce n'est pas tellement la question de la sélection ou pas. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas l'aborder d'un point de vue dogmatique. Le vrai problème, c'est comment est-ce qu'on lutte contre l'échec dans les premiers cycles à l'université. Et là, il faut réformer les premiers cycles.
Il y a 40% des étudiants qui se plantent à la fin de la première année.
Ce qui est insupportable. Et je reconnais que des défauts d'orientation sont en partie responsables de la
sélection. Ce que j'allais vous dire, est-ce que la sélection, ça n'aiderait pas à l'orientation? Quand on voit, par exemple, qu'il y a un tiers des étudiants qui sont en cursus de lettres ou de sciences humaines, alors que les débouchés, tout le monde le sait, sont vraiment minimes, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt un petit peu à sélectionner à l'entrée pour leur dire au moins.
Admettons, mais vous faites quoi en psychologie par exemple, il y a beaucoup d'étudiants, il y a trop d'étudiants en psychologie. Heureusement, même si notre pays va pas bien, on n'a quand même pas besoin de dizaines de milliers de psychologues qui sortent de l'université chaque année. Mais vous les mettez où ces étudiants aujourd'hui? Au vu de la structure de l'enseignement supérieur et notamment des premiers cycles de l'université, vous les mettez où? Nulle part, parce qu'il n'y a pas par exemple de premiers cycles pluridisciplinaires comme ça existe ailleurs. Vous voyez, aux États-Unis par exemple, il y a des premiers cycles pluridisciplinaires avec une orientation progressive et où on peut terminer avec une licence, enfin pas forcément terminer, mais en tout cas avoir une licence de sciences humaines, alors il faut
le champ des spécialités.
Voilà, absolument. Donc il faut avoir
un faisceau.
C'est
amusant de vous entendre en prendre comme exemple les États-Unis.
Ben oui, parce que c'est l'exemple que, en général, on prend toujours pour vanter un système d'enseignement supérieur. Ben, à ce moment-là, d'accord, mais prenons l'ensemble de ce qui compose le système d'enseignement supérieur américain. Et en l'occurrence, il y a plus de pluridisciplinarité que en France. Ou en France, et c'est notamment la faute des enseignants, je le reconnais, mais en France, c'est vrai qu'on a une structure très verticale de l'enseignement supérieur où, en gros, on s'inscrit en première année de psychologie et le bon étudiant, c'est celui qui sortira avec sa thèse de psychologie. Mais on peut pas aujourd'hui organiser l'enseignement supérieur avec ces formations très, très tubulaires. Mais donc, il faut réformer de manière importante les premiers cycles à l'université, augmenter le nombre de places dans les IUT, par exemple, qui marchent très bien, ouais. Où le taux d'insertion pro est très bon à la sortie. Sauf que ça coûte de l'argent. Mais du coup, la sélection, je pense inefficace. Et surtout, c'est vraiment regarder le problème par un tout petit bout de la lorgnette. Donc, c'est pour ça que on réagit souvent avec véhémence, même si dans la réalité, la sélection aujourd'hui, elle existe et c'est la pire des sélections qui soit, parce que c'est la sélection par l'échec en fin de première année. Et encore, en général, c'est dans les toutes premières semaines à l'entrée de la fac.
Selon un autre sondage paru dans Le Parisien, la semaine dernière, plus de la moitié des étudiants ont un travail régulier. Alors, travailler pendant ces études pour ou contre, en sachant que vous avez un travail pendant vos études, vu que vous étiez engagé en politique.
Oui, j'étais pas un étudiant modèle du tout. C'est le mot.
Donc, vous avez fini vos études d'ailleurs?
Non, toujours pas.
Le master de droit public.
Si vous êtes élu, là, vous n'aurez plus besoin de travailler, j'imagine.
Non, surtout, j'ai plus
de bonnes
émotions. Ça fait combien de temps que vous êtes à la fac?
Ça fait longtemps. Je suis à la fac depuis septembre 99.
Vous étiez rémunéré à l'UNEF?
Non.
Vous utilisez votre carte
depuis heureusement d'ailleurs, il n'y a pas de rémunération à l'UNEF, il n'y a pas de salaire à l'UNEF. Ce qui est un problème parce que, il faudrait qu'il y ait un statut de l'élu étudiant en réalité dans les universités, parce qu'en réalité, ceux qui aujourd'hui peuvent réellement se consacrer au syndicalisme, se consacrer à un mandat d'élu dans une université. Moi, j'ai été vice-président de ma fac à Lyon 2. En général, c'est plutôt les enfants de bourgeois, parce qu'il faut quand même que les parents puissent payer les études.
Vous travaillez,
c'est pas compatible avec un boulot.
Comment
C'était mes parents qui ont payé mes études pendant de très longues années. Et donc là, il me reste mon mémoire. Mon mémoire est terminé. J'ai plus que la soutenance de mon mémoire de master quand même. Ce que je ferai juste après les élections, ce serait dommage, alors que tout est terminé, de ne pas avoir mon master juste pour ça.
Autre question que je voulais vous poser sur l'université, pourquoi vous refusez d'arrache-pied les investissements privés dans l'université, alors qu'on sait que l'université française manque cruellement de moyens et qu'on dit aussi que les liens entre les entreprises et la fac ne sont pas assez forts? Est-ce que ça aiderait pas ça?
D'abord, il y a eu beaucoup de progrès de fait dans le rapprochement entre l'université et globalement le monde de l'entreprise, ou plutôt le monde de l'emploi, parce que... Et en France, il n'y a quand même pas que l'entreprise qui fournit de l'emploi pour les jeunes diplômés. Il y a eu beaucoup d'améliorations, notamment en termes de création de filières professionnalisantes. Je pense aux IUT, je pense aux IUP, aux masters professionnels, aux licences professionnelles. Il y en a de plus en plus de filières qui sont directement liées au monde du travail et particulièrement à l'entreprise. Sur la question du financement, il faut accroître ça. Sur la question du financement, moi, je ne suis non seulement pas hostile à un financement privé, je pense même qu'il faut... de manière très importante, augmenter le financement privé de l'université, en tout cas les ressources privées des universités. Il faut qu'on arrive à peu près à 3% de PIB consacré à l'enseignement supérieur, donc consacré à l'université.
On en est
aujourd'hui très loin, on est à peu près à la moitié. On ne récupérera pas le point de PIB qui nous manque uniquement dans les subventions d'État. Même si il faut augmenter massivement, c'est la priorité des priorités. Si le gouvernement respecte 1 milliard d'euros supplémentaires par an, ça sera déjà pas mal. En tout cas, normalement, c'est conséquent. Normalement, l'université aura une gueule un peu meilleure d'ici 5 ans, mais ça ne sera pas suffisant. Donc moi, je suis favorable à un financement par l'entreprise, par le privé des universités, mais à une seule condition, et c'est là qu'il y a un gros problème, c'est qu'il n'appartient pas, il ne peut pas appartenir aux universités de choisir elles-mêmes quelle filière, pas même d'ailleurs quelle université ou quel diplôme elle va financer, parce qu'on sait très bien que certaines universités, notamment de sciences dures, ou alors certaines universités de sciences humaines, mais avec une forte reconnaissance ou avec des réseaux importants, celles-là verront des financements privés importants. En revanche, on aura d'autres universités de sciences humaines, de lettres notamment, de sciences sociales, qui elles auront beaucoup plus de mal à susciter des financements privés.
De la compétition,
en gros, ce qu'il faut, c'est un financement privé plus conséquent, mais avec une mutualisation du produit financier provenant des universités, pour qu'il y ait une péréquation et que grosso modo, on n'ait pas des inégalités flagrantes entre les grandes universités qui arriveront à pomper de l'argent des entreprises et puis celles qui n'y arriveraient pas. Mais il faut augmenter le financement privé des universités.
Philippe fait une grande université et il a donc un talent, c'est de faire un papier complètement décalé.
La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur la terre.
Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.
Alors avant de commencer cette chronique, je voulais juste dire que j'ai réussi à caser dedans Sébastien Follin sans culotte dans mon Nicky Pit. Et je veux bien qu'on m'applaudisse au moment où je le dirai. Alors, je le dis aux auditeurs, ils pourront donner un gage par semaine comme ça. Eux, ouais. Ils peuvent applaudir chez eux aussi, je suis sûr que je l'entendrai. 3, 4. Joie, allégresse, elle est née, la fille de la verte Cécile Duflo, et elle s'appelle la petite Térébenthine. La petite Térébenthine qui attaquera ses parents à 18 ans en procédure collective avec le petit Benzoate et l'adorable Fistule. À croire que son nom est tiré d'un étrange calendrier révolutionnaire, puisque les calendriers révolutionnaires n'avaient pas de saints, mais juste des choses républicaines bien laïques et bien réelles. Beau calendrier, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Alors, en Sébastien Follin sans culotte. Voici l'éphéméride de ce 3 mars. Nous sommes le jour de Fume-Terre en Ventose.
Fume-Terre?
Fume-Terre, oui, c'est étrange, car fumez-tu. C'est la... Ça nuit à l'entourage. Donc personne ne le veut, et pourtant Fume-Terre. De quel terrible épandage la terre brûlante s'est-elle donc recouverte aujourd'hui? Quelle chaleur, quelle pollution? Eh bien non, moi je n'y crois pas. Ce vieux calendrier phrygien, eh bien il est bien caduque. La terre de Paris ni ne fume ni ne ment en ce 3 mars. Elle tremble par contre. Ce sont les volutes de poussière par vos armées soulevées qui s'envolent au lointain, Bruno Julliard. Fume-Terre, non, la terre résonne sous vos pas conquérants. Messieurs les politiques, mieux que n'importe quelle Evelyne Delia annonçant un film de guerre, cette terre parisienne en séisme l'avoue, vos armées sont en marche. Car ça y est, c'est lancé, nous sommes dans les municipales et jusqu'au cou. C'est la guerre, il vous faut vaincre. Il vous faut vaincre, oui, vous qui êtes contre l'omnipotence de la pensée individualiste et libérale, vous voilà dans la compétition la plus acharnée qu'il soit pour un seul salaire de misère, l'élection. Alors quoi, il n'y a plus de saison républicaine, c'est ça? Eh bien si, c'est la saison des tracts, et déjà leur automne. Ces tracts qui tombent au vent mauvais, pleins de promesses de roses, attention imitation, tracts déchirés, outragés, martyrisés.
Oh mon mes Dieu, tracts, c'est lamentable.
C'était très mauvais. Mes tracts charriés par les semelles aveugles au jour de marché.
De Gaulle.
Bah oui, c'était De Gaulle en fait. Alors car votre armée militantesque... car votre armée militantesque est à l'œuvre, monsieur Julliard, en ordre de bataille, elle distribue. Car elle doit nous convaincre, elle doit nous séduire. Et aujourd'hui, les poignées des mains et les souhaits sur les marchés, ça ne suffit plus. Oh oui, auditeur, et toi aussi tu le sais. Avant, tu t'en sortais en bazardant fissa les tracts dans la boîte aux lettres du voisin. C'était in, c'était bat, c'était ok. En un mot, c'était Ottawan. Ottawan, pardon. C'était les années 80, c'était loin tout ça. Non, maintenant, en 2008, le militant te poursuit de toute sa bonne conscience. À croire qu'il va te chercher jusque dans les chiottes. Comme dirait Medvedev, ou comme dira Medvedev. Ou plutôt, il va te chercher jusque dans les cages d'escalier. Vous avez remarqué, cette phrase est assez typique du politique de terrain qui connaît vraiment les gens. Moi, je suis tous les jours dans les cages d'escalier à discuter avec vous. Razi Hamadi à Orly, on est assez fan, c'est la mode, c'est les cages d'escalier.
C'est mieux que les marchés.
C'est mieux que les marchés peut-être. En tout cas, quand on est un politique, on n'est pas un VRP, donc on ne peut pas sonner chez les gens comme ça. On ne peut que se contenter d'être presque chez eux, intrusif mais pas trop, la cage d'escalier. Il fait jour. Dans la jungle urbaine accablée de chaleur, comme le zébu allant s'abreuver, le locataire descend ses poubelles en pantoufles, un peu chez lui, un peu confiant. Mais vous êtes là, tapis derrière les barreaux de la cage d'escalier, si possible juste à côté de ce foutu interrupteur qui s'éteint toutes les 2 minutes. Et vous parlez, Bruno. Oh, je ne me moque pas, vous avez du mérite et surtout vous n'êtes pas dupe. Car en montant les marches des cages d'escalier, c'est en fait dans votre ascenseur social à une place que vous montez. Car ça y est, oui, monsieur Julliard, comme un vol de gaucho hors du charnier natal, vous vous êtes extirpé au forceps, en préma, de ce corps intermédiaire en contraction qu'était l'UNEF. Vous êtes enfin né à la politique. Vous entrez dans la carrière quand vos aînés y sont encore. En somme, on peut dire que vous tenez plus de Tina Arena que de Cyrano. Je m'explique.
S'il te plaît. Si vous pouvez rester jusqu'à la fin.
Alors, ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul, trop peu pour vous. Non, par contre, crevant les plafonds de verre dans cet ascenseur politique, allez plus haut. Allez plus haut. Oh oh.
Imitation.
Pour dessiner votre avenir, Bruno Julliard. Qui sait, peut-être montrez-vous jusqu'à un poste de ministre de la rénovation urbaine au Karcher. Bon, c'était un dernier petit trait d'humour, mais soyez clément, je sais que cette blague vous a déjà fait rire.
Absolument. Merci. Bravo.
Magnifique.
Bravo. Merci beaucoup.
On reste en voix.
Comme on l'entendait tout à l'heure dans le générique, Bruno Julliard, la vie politique française, là on va parler un petit peu de l'actualité, la vie politique française, elle tourne aujourd'hui autour d'un seul homme, de ses déclarations, de ses mouvements, évidemment Nicolas Sarkozy. Et même quand il est en difficulté, comme en ce moment-là, malgré tout, on ne parle que de lui. Comment vous l'expliquez ça, et comment vous expliquez qu'on n'entende pas plus la gauche?
Bon, d'abord qu'on ne parle que de lui à droite, lui-même l'a voulu. On a une volonté, je pense, d'avoir un pouvoir nettement plus présidentialisé qu'auparavant. Ça se respecte par ailleurs. Je ne partage pas cette opinion, cette option, mais cela dit, bon, c'est une volonté de Nicolas Sarkozy. Le fait, par exemple, que alors même que lui, lorsqu'il était président de l'UMP, il avait un président de la République, Jacques Chirac, il avait un autre Premier ministre, Dominique de Villepin, et il souhaitait avoir une UMP forte avec un président de l'UMP fort, qui était lui-même. Aujourd'hui, il refuse qu'il y ait un président de l'UMP avec une direction collégiale de l'UMP. Donc on sent bien qu'il y a une volonté à droite, en tout cas, de tout rassembler sur sa personne. Ça fait les beaux jours des premiers mois de après sa victoire et du gouvernement de.
J'ai vu que vous-même vous étiez un petit peu séduit. Enfin, vous disiez que le déboussiérage.
En tout cas, c'est vrai qu'il y avait besoin d'un déboussiérage. Il y a besoin également, effectivement, d'un vent de modernité et de jeunesse, bon, que lui-même a apporté au début de son mandat. Mais parfois, ça peut coûter cher parce que le fait de ne plus avoir de fusible comme Premier ministre et de lui-même directement de prendre tous les coups, ça commence à coûter cher, même si moi j'ai la conviction que ça n'est pas... par exemple, je ne sais pas, ce que tout à l'heure quand on parlait du sondage de Libération, je ne sais pas ce que moi j'aurais répondu. Je ne sais plus quelle était la question. Est-ce qu'il garde son calme ou pas? Je ne sais plus quelle était la question. Je ne trouve pas ça important. Je pense que s'il baisse aujourd'hui dans les sondages, c'est parce que les Français ne sont pas contents du contenu de sa politique. En tout cas, il doit être jugé. Oui, je pense qu'il y aura un impact et qu'il y aura. Je ne sais pas s'il y aura un vote sanction, mais il y aura évidemment un impact. Mais là aussi, l'impact, il sera uniquement sur la question du contenu de sa politique. Moi, je ne pense pas qu'il faille, et je regrette que certains le fassent à gauche d'ailleurs, je pense pas qu'il faille dire sanction contre Nicolas Sarkozy, on s'en fout,
on s'en fout
de sa vie privée. Bon, ce qui compte, on s'en fout qu'il fasse du jogging et que Chirac n'en fasse pas, ce qui compte c'est quand même le contenu de sa politique. Et ce que je regrette, pour répondre à votre question sur l'absence de la gauche, c'est qu'au final, c'est quand même, je pense, un aveu de faiblesse que de n'avoir comme unique cible la personnalité de Nicolas Sarkozy. Le fait qu'on entende si peu la gauche sur la politique sociale et économique du gouvernement, ou sur des questions encore plus graves, la laïcité par exemple, ou là, tout dernièrement, la remise en cause de la suprématie du Conseil constitutionnel, c'est des atteintes fortes et graves à la République même. Or, on concentre encore sur uniquement la pipolisation, sur la personnalité de Nicolas Sarkozy. Je pense que c'est un aveu de faiblesse.
Alors, choix, peut-être c'est que des actes de campagne du PS.
C'est des choix par défaut, parce que je reconnais qu'aujourd'hui, c'est tellement difficile au niveau national. C'est différent au niveau local, mais c'est vrai que c'est difficile au niveau national de faire croire en un avenir meilleur avec la gauche et avec le Parti Socialiste, parce qu'on a effectivement du mal, parce que les gens ne sont pas idiots. Ils voient bien qu'aujourd'hui, le PS et toute la gauche n'est pas prêt pour accéder au pouvoir, parce qu'elle est désunie, parce qu'on a un projet qui n'est pas clair, parce qu'on n'a pas de leader. Bon. Et tant qu'on n'a pas réglé tous ces problèmes-là, on en est réduit à appeler un vote sanction, bon, ce qui est déjà pas mal, mais il faut un vote sanction, mais enfin, il faut quand même assez vite qu'on se mette au travail sérieusement et qu'on arrive à offrir des débouchés aux aspirations de bon nombre de gens et citoyens, notamment à gauche. Et je pense que c'est plus un aveu de faiblesse que réellement une force que de centrer ces attaques sur Nicolas Sarkozy. Oui.
Et quel premier secrétaire vous verriez-vous à la tête du Parti Socialiste?
Ah, ça, c'est une bonne question dont je n'ai pas la réponse. Je pense surtout qu'il ne faut pas commencer par ça. Je pense que, moi, je crains d'ailleurs qu'on ait un choc des égos là, dans les personnes, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, dès le lendemain des municipales. Je pense qu'il faut qu'on ait d'abord un renouvellement générationnel, donc il faut des jeunes, plus jeunes en tout cas, qui accèdent à la direction du Parti Socialiste, et surtout il faut que ce soit des gens qui mettent le PS au travail, et les militants, non pas comme moi, mais
vous n'allez pas vous présenter
gens. Non, vous n'aurez pas de dépêche à
faire. Il y en a un, c'est Julien Drey qui se présente déjà, et lui pour le coup il était très présent à l'UNEF il y a quelques années.
Ah oui, mais trop, même trop présent. Bien trop présent. Pendant de trop longues années. Mais ça dit, non, je peux, lui ou un autre, c'est pas tellement le problème. Ce qu'il faut surtout, c'est que des gens arrivent à se mettre d'accord au PS et des dirigeants arrivent à se mettre d'accord pour mettre le parti au travail sur le fond. Et qu'enfin, sur la question européenne, sur la question centrale de la redistribution des richesses, sur la question fiscale.
Oui, mais cette démarche-là, vous l'avez déjà faite avant, le PS l'a déjà faite avant, avant les présidentielles. Non. C'est ce qui se disait. On disait d'abord les idées et ensuite on verra les personnes.
Pas sérieusement, puisqu'on a eu trois candidats qui, en gros, racontaient des choses radicalement différentes en interne du Parti Socialiste lors de la désignation.
Mais l'exemple de Sarkozy, ça vous inspire pas malgré tout, le fait qu'il ait préparé pendant 4 ans.
Ça passe d'abord par un travail de fond. Moi, je ne crois pas au sauveur. C'est pas ma culture politique. Ça n'est pas la culture politique du Parti Socialiste. Je vois que certains, ou plutôt certaines, aimeraient qu'il y ait un même phénomène d'adhésion à une personne, un individu, avec une adhésion presque mystique à une personne. Ça n'est pas la culture de la gauche. Ça n'est pas la culture du Parti Socialiste. Et je ne crois pas qu'il faut que ça le devienne. Ce qui doit être la culture du Parti Socialiste, c'est la culture du débat et surtout l'émergence d'un projet
de gauche et clairement à gauche, qui permettra, une fois qu'on aura trouvé le leader après, parce qu'il faudra, c'est une question évidemment centrale, mais qui permettra après de gagner l'adhésion d'une majorité de la population. Mais il faut se concentrer sur ce qui est le plus sérieux et ce qui est le plus grave dans l'état de sommeil du PS aujourd'hui, de la gauche aujourd'hui, c'est l'absence de doctrine idéologique, l'absence de projet clair et concret qui séduit les Français. Et une fois qu'on aura ça, après on trouvera un leader et on trouvera le premier secrétaire. Mais mettons-nous d'abord au travail sur ça, moi c'est ça qui m'inquiète le plus aujourd'hui.
Alors pendant ces municipales, il y a un thème qui éclipse un petit peu tous les autres, c'est celui du pouvoir d'achat. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est en train de nous refaire un petit peu le coup de l'insécurité en 2002, c'est-à-dire un thème qui masque tous les autres, c'est certainement une vraie préoccupation des Français, mais malgré tout du coup on ne parle de rien d'autre.
Oui, d'ailleurs, ce qui est frappant, c'est que la gauche en a très peu parlé en 2007, pendant la campagne des présidentielles, et alors même que le problème existait déjà. Ouais. C'est même pire que ça, parce que circonstance aggravante pour le Parti Socialiste, c'est que en plus, on en a parlé, mais celui qui en a parlé, c'est Nicolas Sarkozy, il a réussi à se faire élire avec ça, alors que c'est plutôt normalement un thème porteur pour la gauche. Donc je regrette un peu que le PS se mette à faire campagne un an après l'échéance présidentielle. Moi, c'est un élément qui est absolument central et les questions sociales sont aujourd'hui, je pense, les préoccupations majeures des Français et notamment des catégories sociales qui, normalement, devraient voter à gauche aux élections. Mais là aussi, il faut faire attention et on ne peut pas uniquement dire « c'est la réalité ». Donc c'est vrai qu'il faut condamner la politique de Nicolas Sarkozy et du gouvernement de François Fillon parce qu'il est responsable d'un échec énorme sur le
pouvoir d'achat. Il est responsable de la hausse des prix ?
Mais en tout cas, il est responsable de la... On ne peut pas dire que on va être le président du pouvoir d'achat et puis un an plus tard dire bah, « finalement, je ne peux plus rien faire ». C'est pas de ma faute si les prix augmentent, c'est pas de ma faute si les salaires n'augmentent pas. Bon, au final, si, c'est en partie de sa faute. Les salaires, par exemple, il pouvait faire des choses, notamment pour les salaires de la fonction publique, ou pour les minima sociaux, ou pour les retraites, il l'avait promis. Il est quand même responsable. Ce que je regrette, c'est qu'à gauche, on ne peut pas uniquement nous limiter à dire échec de Nicolas Sarkozy, son gouvernement. Il faut quand même qu'on voit arriver plus de propositions et un contre-projet plus clair que ce qui existe aujourd'hui.
Malheureusement, Bruno Julliard, cette émission est beaucoup, beaucoup trop courte puisqu'il est déjà 21h. Juste vous dire une chose, un petit rappel pour tous ceux qui nous écoutent. Dimanche, il faut aller voter. Dimanche, les élections municipales. Et je pense que ça vous arrange aussi que je dise ça puisque vous avez peur, je crois, d'une certaine démobilisation de votre électorat. Mais quel que soit votre candidat, en tout cas, pensez à aller voter dimanche.
Et puis nous écouter lundi.
Et puis voilà, c'est ça. Nous, on se retrouve lundi. D'ici là, passez une très bonne semaine. Salut à tous.
Merci, bonne journée. Au revoir.
Merci.